Gaspard, Linky et compagnie, touche pas à mon compteur, l'émission du collectif du même nom.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'émission Touche pas à mon compteur avec Maud Bigan. Bonjour Maud.
Bonjour Florian.
Aujourd'hui, tu vas traiter un sujet d'actualité, comme un peu la semaine dernière et les émissions précédentes, c'est la retraite CICE, un sujet d'aujourd'hui. Oui. Tu vas aussi parler de Baxter, donc l'ouverture d'esprit autre que le quotidien qui nous entoure. Mm-hmm. Comprendre un peu le monde différemment.
Voilà, tout à fait. Alors, c'est vrai que la semaine dernière, justement, on avait souligné à la fois la nécessité à la fois de s'informer, évidemment, et de regarder au-delà des apparences et du discours, disons tout prêt à penser là qu'on nous sert en fait, mais également d'agir pour ne pas se laisser, étouffer, submerger, ronger un peu par tout ce qu'on découvre en fait du dessous des cartes et de ce qu'on en découvre. Si on cherche un tout petit peu, et puis évidemment aussi d'écarter ces quatre murs pour avoir des bouffées d'oxygène et ne pas se laisser uniquement obnubiler, on va dire, l'esprit par tout ce qui est un peu plombant dans le quotidien et dans tout ce qui est justement en train de se passer.
Bien écarter ces quatre murs pour avoir la bonne vision de la chose.
Ben, je sais pas s'il y a une seule bonne vision, mais je veux dire déjà découvrir au-delà, si vous voulez, de ce qu'on a comme idée reçue sur le monde et en particulier aussi sur les relations, les énergies entre les gens, entre les êtres, etc. On avait très très vite évoqué justement les recherches du chercheur Baxter la semaine dernière, et donc je voudrais juste, j'espère qu'on aura le temps de le traiter un petit peu, élargir un petit peu, parce que voilà, y revenir, ça amène des informations sur des fonctionnements du monde et des interactions que nous avons entre nous et entre l'esprit et le corps aussi, qui sont vraiment fondamentales. Voilà. Donc tout d'abord, donc sujet d'actualité, effectivement, les retraites. Alors, je sais bien que vous avez dû sans doute en entendre parler et reparler, reparler, et tout le monde doit en avoir un peu soupé, mais quand on voit que le gouvernement cherche à jouer la montre, à jouer l'essoufflement du mouvement, à essayer de passer en force, à essayer de diviser pour mieux régner, comme on a déjà évoqué la semaine dernière, jouant aussi à la fois les catégories socio-professionnelles les unes contre les autres, lâchant du lest vis-à-vis des uns des autres, par exemple des policiers qui étaient... Enfin, rappelez-vous, on est censé pas avoir dans cette nouvelle réforme de régimes spéciaux, on est censé avoir tout le monde pareil. Bon, évidemment, on commence déjà, en fonction du potentiel de pression de tel ou tel groupe de population, à voir des écarts qui commencent à se marquer, justement, rendant cette notion d'égalité complètement arbitraire. De toute façon, cette réforme n'est pas du tout égalitaire. On a énormément de choses qui nous le disent. Moi, je voudrais en particulier attirer l'attention des gens sur la notion du point. Parce que quand on définit une retraite par point, il y a un prix à payer pour le point, c'est-à-dire que chaque cotisation, on pourra dire, va servir à accumuler des points qui vont ensuite, en fonction de leur valeur, nous donner un montant de retraite. Mais le gouvernement, à ce moment-là, a la main sur deux choses très importantes, c'est-à-dire le prix du point, combien il va falloir donner de cotisations pour pouvoir accumuler ces points, et ensuite la valeur du point, qu'il peut faire varier à loisir, en fonction de ses priorités. Et donc, au-delà du chiffon rouge, de l'âge pivot, qui est une sorte d'épouvantail, qui, bien sûr, va toucher tout le monde, privé comme public, on va dire, oblige les gens pour avoir une retraite complète à travailler jusqu'à 64 ans. Mais au-delà de ce discours-là qui est vraiment, qui focalise l'attention des gens, mais le vrai problème est ailleurs. Le vrai problème, il est sur le fait qu'ensuite, le gouvernement a tout loisir de diminuer la valeur du point et donc de diminuer le montant des retraites effectives, y compris potentiellement pour les retraités actuels qui, d'après toutes les analyses, semblent être non concernés par le système. Mais si tout toutes les valeurs sont à point, si tu veux, si toutes les retraites dépendent de la valeur du point, on peut faire varier cette valeur du point à loisir si on décide de diminuer le montant général des retraites. Alors, c'est de toute façon évident, mais le pire, c'est que ça avait été annoncé. Et savez-vous qui c'est qui nous l'avait annoncé ? C'était François Pillon, figurez-vous. Alors, effectivement, je vous invite à regarder donc une sorte d'allocution hein, de François Fillon, qu'il avait faite en mars 2016 devant tout un parterre de patrons. Alors, il était en pré-campagne, on peut dire, à l'époque, hein, pré-campagne présidentielle. Mais figurez-vous que vous trouvez... par exemple, notamment sur YouTube, une vidéo intitulée « François Fillon face au patron, retraite par points », donc sur Public Sénat, d'accord. C'était le 10 mars 2016. Et alors, qu'est-ce qu'il annonçait à ce moment-là, François Fillon, en fait ? Eh bien, il annonçait qu'il n'était pas contre la réforme des retraites, d'accord, mais que pour lui, c'était une manière de diminuer la valeur du point, de faire jouer la valeur du point à loisir. Alors, regardez ceci, vous avez un petit résumé de cette vidéo. Dans l'article actu.fr du 6 décembre 2019, qui s'intitule « Réforme des retraites, les propos de François Fillon refont le buzz ». Et vous trouvez notamment la notion de retraite par points. Il nous dit « Le système de retraite par points, j'y suis favorable, mais il ne faut pas faire croire aux Français que cela va régler le problème des retraites. » Citant l'exemple des retraites par points, qu'est-ce qu'il dit ?« Ce qu'aucun homme politique n'avoue, avait-il ajouté, c'est que le système permet, selon lui, je cite, « de baisser chaque année le montant des points, la valeur des points, et donc de diminuer le niveau des pensions. » Voilà. Donc, si tu veux, on est dans une situation où cette évidence, qui était rappelée pourtant si obligeamment par M. Fillon en 2016, sans avoir été complètement occultée par le gouvernement, et il faut quand même bien comprendre qu'on part d'un système qui était un système fléché, géré par des commissions paritaires, où le gouvernement n'avait pas la main sur les fonds en question, et on se dirige vers un système où, en fait, l'État est absolument tout puissant, et où, s'il décide que la priorité, ce n'est pas les retraites petites ou grandes, eh bien, tout le monde y perdra. Donc, tout le monde y perdra à différents niveaux, avec l'âge pivot, avec effectivement le calcul de la retraite sur l'ensemble de la carrière, incluant les mauvaises années, on peut dire, hein, les années moins travaillées ou peu travaillées. Le gouvernement nous dit que les femmes seraient les grandes gagnantes, pas du tout, puisque justement, souvent, au contraire, les femmes sont souvent dans des carrières avec des interruptions, des congés maternité, des moments où elles sont peut-être plus occupées avec la famille, etc. Et donc, elles ont souvent, au contraire, des carrières plus à trous que les hommes, par exemple. Et donc, elles vont être d'autant plus pénalisées. Et puis, vous avez également donc, une analyse qui rappelle ce genre de choses et d'autres dans un article de Bastamag, que je vous invite à regarder, qui est en fait aussi intéressant parce que il est axé sur un rapport, si tu veux, une sorte de résumé qui a été fait par Anaïs Engel, qui est maîtresse de conférences en économie à l'université de Rennes 2 et qui est membre du collectif Les économistes atterrés. Je ne sais pas si tu connaissais ça. C'est un collectif d'économistes qui justement décrypte l'actualité et les mesures prises par le gouvernement à différents niveaux pour montrer, on va dire, souvent les incohérences, les grands perdants de l'affaire, etc. Et là, vous avez donc un article de Bastamag qui résume ce rapport que vous avez en lien PDF également sur cet article. C'est un article donc du 24 décembre 2019, actu.fr donc, Bastamag, qui s'intitule « Retraite, guide d'autodéfense imagé pour les dîners de Noël ». Alors, Noël est passé, mais les mensonges quand même proférés autour de cette réforme qui souhaite la promouvoir trouvent ici des réponses très concrètes. Hein. Notamment, par exemple, autour de la notion d'obligation de réformer le système, sinon on va avoir très vite, à partir de 2025, des trous dans la caisse qui vont faire qu'on ne pourra pas assumer les retraites de tout le monde, etc. Ce que cette dame nous rappelle, c'est qu'il y a 127 milliards de réserves financières sur le système des retraites actuelles. Donc, même s'il y avait quelques trous, on pourrait dire, on est vraiment dans quelque chose qui est mineur par rapport aux réserves actuelles. Ces réserves sont évidemment la raison pour la réforme par le gouvernement, puisque l'idée, c'est de faire main basse sur ces fonds, justement, et pouvoir les envoyer ailleurs, si besoin est, de manière à, si tu veux, gérer évidemment d'autres priorités. Sachant qu'on a déjà évoqué la notion du blocage du PIB à 14%, si tu veux, le montant des retraites à 14% du PIB, comme étant évidemment une fumisterie absolue, puisqu'on sait très bien qu'on est dans un contexte de vieillissement de la population et que la population n'est pas amenée à avoir moins de retraités demain qu'aujourd'hui, d'une part, et d'autre part qu'on est dans une situation où l'endettement est de plus en plus important. On a passé pendant ces vacances de Noël là le cap des 100% d'endettement par rapport au PIB. Rappelons déjà qu'actuellement, c'était déjà le cas il y a plusieurs années, donc c'est encore pire aujourd'hui, la totalité de l'impôt sur le revenu français passe dans le paiement des intérêts de la dette, et qu'on est dans une situation évidemment qui est une épée de Damoclès complète, puisque actuellement les intérêts d'emprunt sont extrêmement faibles pour les États, parce qu'il y a un argent facile. Les banques, par exemple, comme la Banque européenne ou bien au niveau des États-Unis, par exemple, la Réserve fédérale, etc., fournissent quasiment gratuitement de l'argent aux banques, qu'elles vont ensuite, puisque l'État, depuis les années 70, les États n'ont officiellement plus le droit de battre monnaie et doivent passer par les banques pour emprunter, eh bien les banques, se fournissant pratiquement à 0%, vont prêter ensuite aux États contre un montant d'intérêt. Donc les banques font évidemment la culbute ici. Elles réussissent à avoir de l'argent quasiment gratuitement et à nous le faire payer contre intérêt via les États. D'accord. De la même manière, quand même, il faut quand même comprendre aussi comment fonctionne le crédit. Quand nous demandons un crédit, la banque n'a pas cet argent. Elle ne fait que créer une ligne de compte sur un ordinateur. Par contre, si nous avons des problèmes pour rembourser, on nous prend notre maison, on nous prend ci, on nous prend ça. On se paye, par contre, dans des choses réelles. La banque, si tu veux, crée un argent virtuel qui ne lui coûte rien.
Argent fictif.
Argent fictif qui ne lui coûte rien. Elle est par contre payée en argent qui provient de la sueur de chacun, on peut dire, et ensuite elle se paye si jamais on ne peut pas payer en choses absolument concrètes. D'accord. Donc là, on a un véritable hold-up. Il faut que les gens comprennent bien comment ça se passe. Et tout ça parce que dans les années 70, les États ont donné leur accord pour ne plus avoir le droit, entre guillemets, de battre monnaie. Du coup, on s'est précipité, hein, si on peut dire, dans les mains des banques et on a construit petit à petit cette dette qui devient de plus en plus colossale, quoi. Rappelons quand même que tout cet argent, c'est de l'argent qui ne va pas dans l'investissement, qui ne va pas justement dans les services publics, dans les éléments sociaux, etc. Et qu'après, on nous dit qu'il faut se serrer la ceinture. D'accord ? Voilà. Rappelons aussi, je voulais parler du CICE très très vite. Alors le CICE, c'est un système que peut-être certains connaissent. Il a été réformé en début 2019. On a changé de nom et on a changé son principe. Mais en gros, le but du jeu, c'est que ce CICE, donc, était une sorte de soutien aux entreprises, notamment dans le cadre des emplois où les employés touchaient moins de 2,5 fois le SMIC. Ça a été donc créé sous François Hollande. Ça a quand même déjà coûté beaucoup d'argent. Hein. 2014, 6,6 milliards d'euros. 2015, 12,5 milliards d'euros. 2016, 12,8 milliards d'euros. 2017, 15,7 milliards d'euros. 2018, 20,1 milliards d'euros. Et en 2019, une quarantaine de milliards d'euros. Pourquoi cette hausse ? Parce qu'on a, entre guillemets, réformé ces éléments, ce CICE. C'est-à-dire qu'en fait, jusqu'ici, les entreprises percevaient cet argent en décalé l'année suivante. Donc, par rapport aux effets sur l'emploi, puisque c'était l'objectif, et par rapport aussi à la trésorerie des entreprises, c'était plus difficile. Donc, il a été décidé de finalement transférer ces fonds, cette aide, cette incitation, vers des allègements de charges patronales directement appliquées l'année en question, l'année 2019. Ce qui fait qu'en année 2019, il a fallu à la fois payer ce qui avait été promis aux entreprises l'année précédente, sous le couvert de l'ancien système, si tu veux. Et puis, avec le nouveau système, il y avait un prélèvement immédiat, si tu veux, sur les finances publiques aussi, puisque là, ce nouveau système faisait qu'on payait aux entreprises directement en allègement de taxes, certaines sommes. Donc, ce cumul amène à l'équivalent de 40 milliards sur l'année 2019.
On passe quand même de 6 000 à 40 milliards.
Tout à fait. De toute façon, l'année d'avant, on était à 20 milliards. Et de toute façon, entre 6 milliards et 20 milliards, on avait déjà énormément augmenté. Tout ça pour une augmentation absolument ridicule de l'emploi, quand même, puisque... alors, je vous réfère à deux articles pour en savoir plus. Il y avait une sorte de rapport, d'étude qui a été faite pour les parlementaires en décembre 2018, donc qui avait été utilisé pour, leur permettre de réfléchir au vote ou non de ce nouveau système, si tu veux, en 2019, donc pour 2019. Et donc ce rapport de fin 2018 indiquait que l'effet sur l'emploi avait été modéré. Vous allez voir que c'est très très gentil. On disait qu'on avait créé ou conservé 100 000 emplois. Alors, je vous invite à faire le calcul. Vous avez vu tous les milliards que je vous ai cités. Ça correspond à énormément d'argent. Je vous invite à faire le calcul pour savoir si on avait simplement divisé ces milliards par 100 000 emplois, combien on aurait payé chaque personne pour son salaire par rapport à cet argent. Évidemment, vous allez vous rendre compte qu'on a donné énormément plus que l'impact réel sur l'emploi. Donc, on est dans une situation ici où c'est un cadeau aux grandes entreprises en particulier. Je pense que ça a déjà été abondamment discuté. Pour cela, je vous invite quand même, pour en savoir plus, à regarder deux articles. Il y a déjà un article de l'Humanité qui s'intitule « L'Assemblée entérine 40 milliards d'euros de cadeaux fiscaux au patronat ». Donc ça, c'était le 4 décembre 2018. Et vous avez également un autre article, celui-là plus rapide, mais qui vous donne simplement l'origine des chiffres que je viens de vous citer. C'est « Le CICE a-t-il coûté 40 milliards d'euros en 2019 ?» de 20 minutes. Voilà. Et ça vous explique un peu la provenance de ces chiffres, du coup, donc du rapport du comité de suivi du CICE, rapport qui a donc été publié au dernier trimestre 2018, en octobre 2018. Voilà. C'est un comité rattaché à France Stratégie, une institution liée au Premier ministre, et qui donc avait établi ce rapport tout à fait officiel, que les parlementaires aient les éléments pour décider. Donc voilà, vous êtes dans une situation ici où on dérive des quantités astronomiques d'argent public pour aider les grandes entreprises, on allège leurs cotisations patronales et on crée du coup aussi des baisses dans l'approvisionnement des caisses sociales et donc des caisses de retraite. Et donc on crée artificiellement un déficit aussi de recettes dans les caisses de retraite. Et ensuite, on dit, regardez, notre système est bancal, notre système ne va pas tenir, il faut le réformer. Donc, ce CICE est complètement en lien avec la réforme de retraite, parce qu'il pompe encore plus les ressources qui auraient pu aller dans les caisses de retraite. Et rappelons également que les retraites depuis plusieurs années ne sont plus indexées sur l'inflation, inflation qui est largement sous-évaluée également. Donc, vous le savez, on en a déjà parlé plusieurs fois avec le livre de Philippe Erlin, « Pouvoir d'achat, le grand mensonge ». Donc, tout ce qui est indexé sur l'inflation serait déjà sous-indexé par rapport à l'inflation réelle. Mais là, en plus, vous avez un gel carrément des retraites depuis plusieurs années. Et vous pouvez penser que ça va perdurer. Voilà. Donc, j'invite nos auditeurs à vraiment se renseigner sur tous ces éléments-là. Il y a un enfumage absolument terrible sur le sujet. Et donc, on est dans une situation où... il faut aller bien, bien au-delà des discours de base du 20h qu'on nous sert et qu'on nous resserre. Voilà. On n'a pas eu le temps de parler de Baxter et de tout cela. Ouais. C'était une émission concrète, on va dire. Mais moi, je vous invite effectivement à vous renseigner. Et la semaine prochaine, eh bien, on consacrera une émission spécifique à ces éléments un peu plus alternatifs. On parlera la semaine suivante de BlackRock, qui est bien sûr tout à fait derrière cela, y compris avec tous ces fonds de pension et autres qui se frottent les mains à l'idée que les gens se reportent sur la retraite par capitalisation, notre système public étant affaibli.
Vendu.
À bientôt.
Merci beaucoup, Baudou.
Au revoir.